Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Chers amis auditeurs, bonjour. Nous voici au début d'un nouveau trimestre et le titre général pour ce trimestre, c'est celui-ci, « Être aimé et aimé ». Et il s'agira des épîtres de l'apôtre Jean. Voici l'introduction pour ce trimestre. En 2007, une revue scientifique grand public titrait, sur la couverture, « Nous ne savons pas ». Cet article offrait de courtes réflexions sur des mystères restés sans réponse, tels que « Pourquoi dormons-nous ? Le temps est-il une illusion ? Qu'y a-t-il au centre de la Terre ? De quoi l'univers est-il fait ? Et pourquoi nous ne pouvons prédire le temps qu'il fera ?» Même après des centaines d'années de progrès scientifiques, nous sommes encore dans l'ignorance au sujet de ces questions fondamentales. Heureusement, il y a des questions plus importantes. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous? À ce sujet, nous n'avons pas à tâtonner dans le noir. La Bible répond à ces questions fondamentales. Parmi les révélations faites dans les Écritures se trouvent les écrits de Jean l'Évangéliste. Ce trimestre, nous n'étudierons pas l'Évangile de Jean ou l'Apocalypse, mais nous étudierons ces trois épîtres. Tout en s'adressant aux églises de la fin du 1er siècle, elles traitent de questions qui sont toujours d'actualité. Amour, obéissance, péché, fausse doctrine et apostasie. Elles parlent avant tout de Jésus-Christ, par qui nous avons été créés, qui donne sens et but à notre vie et qui a promis de revenir pour nous faire connaître la vie éternelle. Nous trouvons donc en Jésus des réponses aux questions les plus essentielles. Les épîtres de Jean ont été écrites pour traiter de problèmes auxquels se trouvaient confrontées les églises de l'époque, notamment la nature du Christ. Pour Jean, cela ne relevait pas d'une théologie abstraite, mais déterminait la vision chrétienne de la vérité. Nier que Jésus-Christ était venu en chair risquait d'entraîner une vision du péché et du salut radicalement différente des enseignements bibliques, ainsi qu'une dynamique différente au sein de la communauté des croyants et une relation différente avec la société d'alors. Elle risquait de conduire à l'apostasie et à la ruine, d'où l'importance de ce thème. En étudiant ces épîtres, il est important de garder à l'esprit que leurs messages sont tous reliés à Jésus. Chaque fois que nous en discutons, nous parlons également de la personne de Jésus, de ses œuvres en notre faveur et de ce qu'il a promis de faire pour nous. Ainsi, les trois épîtres de Jean traitent de questions adaptées à l'Église actuelle. Il est bénéfique de les écouter. En réalité, Dieu s'adresse à nous par le biais des paroles de Jean. Il ne répond pas à des questions telles que « Qu'y a-t-il au centre de la terre ?» mais nous révèle la vérité sur un fondement plus grand et plus solide sur lequel nous reposer, c'est-à-dire le Créateur et Sauveur Jésus-Christ. L'auteur des leçons de ce trimestre, c'est Eckhard Müller, natif d'Allemagne, docteur en théologie et directeur adjoint de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale à Silver Spring, dans le Maryland, aux États-Unis. Il est spécialisé dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, l'herméneutique, c'est-à-dire la recherche du sens exact des Écritures, et la théologie appliquée. Il est marié et est père de deux enfants. Eh bien, nous voici au début de la première leçon. Cette leçon, qui est pour la semaine du 27 juin au 3 juillet, a pour titre « Jésus et les lettres de Jean ». Et voici le premier verset qui est à mémoriser pour cette semaine. Il se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 4, et le verset 14. Le voici. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et les questions clés sont les suivantes. Qu'est-ce qui nous porte à croire que Jean est l'auteur de ces épîtres? À qui les adressait-il? Quels étaient ses sujets de préoccupation? Comment les aborde-t-il? Que dit-il sur Jésus? Quelles promesses retirons-nous de ces lettres? De faux docteurs qui répandent l'erreur parmi les saints, des idées fausses concernant la nature du Christ, des luttes de pouvoir dans l'Église, des hérésies propagées dans les rangs des fidèles, des croyants qui ne sont pas sûrs de leur salut, d'autres qui ignorent que la foi doit conduire à l'obéissance à la loi. Ce sont là certaines des questions abordées, il y a près de 2000 ans, dans les trois courtes épîtres de Jean qui se trouvent vers la fin du Nouveau Testament. Toutefois, Jean ne se concentre pas uniquement sur les problèmes, il attire aussi notre attention sur Dieu le Père et le Fils. Il nous parle d'eux et nous montre ce qu'ils ont accompli pour nous et ce que nous devons faire en retour. Eh bien, nous commençons par le dimanche 28 juin 2009, et pour cette journée, il s'agit de voir par qui et pour qui, l'auteur et ses lecteurs. La première épître de Jean commence sans véritable introduction. Pour une raison que nous ignorons, l'auteur ne se présente pas. D'après la seconde et la troisième lettre, il s'agit d'une personne appelée simplement l'Ancien. Pour ce qui est des destinataires, on nous parle d'une dame choisie et d'un personnage nommé Gaïos. Ce sont là des informations assez vagues qui soulèvent un certain nombre de questions. Néanmoins, l'étude des lettres elles-mêmes nous renseigne sur celui qui les a rédigées. Le style et le vocabulaire commun aux trois épîtres semblent indiquer que celles-ci ont le même auteur. Et nous allons voir ce qu'elles nous disent à son sujet. Et pour ceci, nous avons quelques textes à vous proposer. Il s'agit tout d'abord d'un premier texte dans la première épître de Jean, chapitre 1er, les versets 1 à 4. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toute chose par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Nous avons un autre texte dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 1er tout d'abord. « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Un autre texte que nous trouvons dans la deuxième épître de Jean, chapitre 1er et le verset 1er. L'Ancien à Kyria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Et voici un autre texte que nous trouvons dans la deuxième épître de Jean, chapitre 1er, les versets 1 à 5. L'Ancien à Kyria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Il est clair que l'auteur a été témoin oculaire de Jésus. Il semble également avoir eu des liens étroits avec les membres d'Église à qui il écrit « car il les appelle avec tendresse « mes enfants ». Il occupait dans l'Église une position de responsable, et plus d'une fois, il dit espérer rendre visite un jour à ses frères et sœurs. L'étroite ressemblance avec les expressions et les thèmes figurant dans l'évangile de Jean, de même que les témoignages des pères de l'Église, indiquent qu'il s'agit bien de l'apôtre Jean. Son attitude à l'égard des membres d'Église nous rappelle un point très important. Combien il est essentiel que nous cherchions à faire preuve de bonté, de sollicitude et d'amour dans nos relations avec notre entourage. Comme ses lettres le montrent très clairement, Jean aimait ces personnes et se souciait d'elles. Il désirait qu'elles soient fortes dans le Seigneur. Nul doute que son amour pour elles donnait davantage de poids à ses mots. Quelle leçon pour tous ceux qui veulent être les témoins de Jésus et des vérités qu'il a données à l'Église. Voici une réflexion pour terminer cette journée. Il est bon d'avoir des notions théoriques sur la nature de Dieu, le plan du salut, le retour de Jésus et le vrai jour du sabbat. Mais si notre vie ne reflète pas l'amour et le caractère de celui qui est l'auteur de ces vérités, que vaut notre témoignage? Sans doute avons-nous l'art de présenter ces sujets de manière logique, et c'est très bien. Mais quelles traces tiennent l'amour et le souci des autres dans notre démonstration? C'est ainsi que prend fin cette journée du dimanche. Et nous avons maintenant devant nous le lundi 29 juin 2009, le titre pour cette journée, à quel sujet ? Le contenu des épîtres. La première lettre de Jean traite d'un certain nombre de sujets importants. Mais l'apôtre ne semble pas suivre une progression linéaire. Cette remarque a conduit certains spécialistes à conclure que Jean présentait son argumentation de façon cyclique, c'est-à-dire qu'il revient sur ses thèmes en les abordant selon des angles différents. Il reprend les mêmes sujets, mais avec des perspectives variées. Nous allons lire maintenant quelques versets en suivant sa ligne de pensée. Et nous allons donc lire dans la deuxième épître de Jean, chapitre 1er, les versets 7 et 8. « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. » Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Dans cette lettre, l'apôtre se réjouit de ce que les enfants de la dame marchent selon la vérité. Il parle également d'amour et d'obéissance, puis des faux docteurs déjà mentionnés dans 1 Jean, en employant à nouveau le terme d'antichrist. Dans sa conclusion, il exprime le désir de rendre visite à ses lecteurs et leur transmet des salutations. On peut se demander quel est le lien entre les deux premières lettres qui traitent des faux docteurs et la dernière où il n'en est pas fait mention. On peut envisager que toutes trois parlent d'une même situation, mais sous des angles différents. Alors que dans 1 et 2 Jean, l'auteur met en garde ses lecteurs contre ceux qui enseignent des erreurs, dans la troisième épître, il montre sans doute comment, dans une circonstance précise, les responsables d'Église ont essayé de résoudre le problème. Et voici, pour conclure cette journée, quelques lignes adressées par l'auteur de ces leçons. Dans de nombreuses régions du monde, la notion d'orthodoxie doctrinale est considérée comme plutôt dépassée. En fait, pensez notamment à la période de l'Inquisition, ou tous ceux dont la théologie n'était pas suffisamment orthodoxe et pensaient qu'ils étaient torturés et mis à mort. C'est pourquoi, aujourd'hui, de nombreux croyants ne veulent pas du tout entendre parler et soutiennent, au contraire, que peu importe l'enseignement, ce qu'il faut, c'est aimer. Pourtant, Jean, tout en insistant fortement sur l'amour, n'hésite pas à s'attaquer aux erreurs théologiques. Eh bien, nous abordons maintenant le mardi 10 juin 2009 la question qui est posée, pourquoi ? La raison d'être des épîtres. À plusieurs reprises, Jean explique pourquoi il a écrit sa première lettre. Lisons donc ces textes, nous les trouvons dans 1 Jean 1 à 4. 1 Jean 1 à 4, et voici ce qu'il dit. « Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. » Ensuite, 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui dès le commencement était. » Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Encore un texte dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 13. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Toutes ces déclarations sont positives et valorisantes. Elles doivent cependant être remises dans le contexte des sérieuses difficultés rencontrées à l'époque par les églises à qui Jean s'adressait. En effet, cette lettre s'élève fortement contre les faux docteurs, qu'elle appelle « antichrist », un terme qui apparaît 4 fois dans la première épître et 1 fois dans la seconde, alors qu'il n'est employé nulle part ailleurs dans la Bible. Ces antichrists avaient des idées erronées au sujet de Jésus et du péché, ce qui affectait leur façon de vivre, leur christianisme. Jean, bien sûr, sentait qu'il fallait combattre leurs enseignements, et il l'a fait avec force et sans complaisance. Néanmoins, il donne aussi du véritable christianisme une image positive, et il insiste sur cet aspect. Tout en s'opposant aux erreurs théologiques et éthiques, il argumente en faveur de l'unité qui règne entre le Père et le Fils, du pardon divin, et d'une vie gouvernée par l'amour. En encourageant ainsi les membres d'Église et en les mettant en garde contre des théories sans fondement concernant le Christ et le comportement du chrétien, sans doute espérait-il également regagner ceux qui avaient quitté l'Église. Dans la deuxième et dans la troisième épître de Jean, rien n'est dit des raisons pour lesquelles il écrit, mais on peut les deviner. Tout d'abord, dans sa deuxième épître, il veut prévenir les membres d'Église à propos des enseignements théologiques et éthiques erronés professés par les faux docteurs mentionnés dans la première épître. Ensuite, d'après la troisième épître, il y avait une lutte de pouvoir. Diotrèphe cherchait à s'arroger toute l'autorité. Sous couvert de lutte contre l'hérésie, il essayait d'asseoir son propre pouvoir. Et voici en conclusion de cette journée du mardi, Jean ne minimise pas la gravité de ses faux enseignements, mais il traite le problème en soulignant les aspects positifs du christianisme authentique. C'est là pour nous un principe important. Il est si facile de se laisser absorber par la lutte contre l'erreur au point de se focaliser sur elle plutôt que sur la vérité. C'est à réfléchir, bien sûr. Nous allons poursuivre cette étude avec le mercredi 1er juillet 2009. Et là, il s'agit de Jésus dans les épîtres de Jean. Jésus apparaît tout au long de la première épître, il en est même le cœur. Et voici maintenant quelques versets que nous allons lire dans la première épître de Jean. Donc nous allons lire tout d'abord le verset premier. « Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ensuite, nous lisons le chapitre 5 et le verset 20. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » Ensuite, nous avons un autre texte dans 1 Jean chapitre 4 et verset 15. « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Nous poursuivons avec 1 Jean chapitre 2, verset 1er. « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas, et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Un autre texte dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22. « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. » Un autre texte, 1 Jean chapitre 4, verset 14. « Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Et enfin, un autre texte pour terminer cette journée, 1 Jean chapitre 5 et le verset 20. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est, le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » Même si la première épître parle plus souvent de Dieu, le Père, que Jésus, c'est avec le Fils que les membres d'Église de l'époque, comme peut-être aussi ceux d'aujourd'hui, avaient un problème. Ils étaient sans doute en grande partie d'accord avec les faux docteurs en ce qui concerne la nature du Père, mais ils se trouvaient en désaccord à profond de l'humanité et de la divinité de Jésus. La question qui se posait était de savoir si, oui ou non, Jésus était venu en chair, et s'il était le Christ. Au milieu de ces controverses, Jean maintient clairement qu'on ne peut séparer le Père et le Fils. Même de nos jours, certaines personnes, y compris des chrétiens, pense qu'il est possible d'avoir une relation avec Dieu le Père indépendamment de Jésus. Pour eux, ce dernier est simplement un homme merveilleux. Mais Jean, lui, est clair là-dessus. Si tout en reconnaissant que Jésus existe, on ne l'accepte pas comme Messie et Fils de Dieu, on ne peut avoir avec Dieu le Père une relation salvatrice. Nous poursuivons cette étude avec le jeudi 2 juillet 2009, et là, il s'agit du ministère de Jésus dans les épîtres de Jean. Non seulement les lettres de Jean présentent Jésus sous différents angles, en nous apprenant qu'il existait dès le commencement, et qu'il est resté juste et pur sans péché, mais elles insistent aussi sur son ministère et sur son œuvre. Elles s'attardent longuement sur la nature de Jésus et sur ce qu'il a accompli. Nier sa divinité ou son humanité signifie nier également son ministère en tant que sauveur, modèle et Seigneur. Le salut repose sur la nature à la fois divine et humaine de Jésus. Sans une juste compréhension de celle-ci, on risque d'avoir du plan du salut et du problème du péché une notion erronée. On court le danger de prendre le péché à la légère, ou même de le nier, et c'est une attitude qui, d'une manière ou d'une autre, finit par influencer le comportement et la moralité. Lisons maintenant ce que dit Jean concernant le ministère et l'œuvre de Jésus, et quelles promesses découlent de ce que Jésus a accompli et de ce qu'il accomplit actuellement pour nous. Là, nous trouvons ceci dans la première épître de Jean, chapitre 1er, et le verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Plusieurs textes qui vont se suivre maintenant, un autre dans le deuxième chapitre de la première épître, verset 25. « Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. » Le verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. » 1 Jean, chapitre 3, verset 8. « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » 1 Jean 3, verset 16. « À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et enfin, 1 Jean chapitre 5 et le verset 18. « À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Ce que Jésus a fait pour nous en tant que sauveur et ce qu'il réalise actuellement pour nous en tant qu'avocat appelle une réponse de notre part. Le pardon des péchés, l'assurance du salut, le don du Saint-Esprit, l'espérance en son retour et la promesse selon laquelle nous lui ressemblerons et le verrons tel qu'il est ne peuvent nous laisser indifférents. C'est pourquoi nous croyons en lui, nous l'aimons, nous le suivons, nous lui obéissons, nous demeurons en lui, dans ses enseignements. Nous terminons cette journée par quelques lignes à méditer. Examinons quelques-unes des promesses mentionnées plus haut. Sont-elles pour nous particulièrement significatives? Comment pouvons-nous prendre davantage conscience de leur richesse? Nous voici maintenant à la journée du vendredi 3 juillet 2009, qui va donc terminer cette semaine. Et pour aller plus loin, nous avons quelques citations tirées du livre « Conquérant pacifique » d'Ellen White. « À mesure que les années s'écoulaient et que le nombre des croyants se multipliait, Jean travaillait pour ses frères avec une fidélité et un zèle croissant. L'Église courait de grands dangers. Satan exerçait ses ravages partout. Certains qui se réclamaient du Christ proclamaient que son amour les dispensait d'obéir à la loi de Dieu. Par ailleurs, beaucoup d'autres enseignements disaient qu'il fallait observer les coutumes et les cérémonies juives et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir foi dans le sang de Jésus pour être sauvé. Une simple observance de la loi suffisait au salut. D'autres tenaient le Christ pour un homme supérieur, mais lui refusait sa divinité. D'autres encore prétendaient être fidèles à la cause de Dieu, étant des imposteurs et pratiquement reniant le Sauveur et son Évangile. Ils vivaient dans le péché et introduisaient des hérésies dans l'Église. Ainsi, beaucoup se fourvoyaient dans le dédale du scepticisme et de l'erreur. Jean était rempli de tristesse en voyant ces théories empoisonnées s'insinuer au sein des communautés chrétiennes. Il pressentait les dangers auxquels elles étaient exposées et il agissait avec détermination et promptitude. Les épîtres de Jean reflètent l'esprit même de la charité. L'apôtre les a manifestement rédigées avec une plume inspirée par l'amour. Mais quand il était en contact avec ceux qui n'observaient pas la loi de Dieu, et prétendaient cependant vivre sans péché, il n'hésitait pas à les avertir de leur dangereuse illusion. Voici quelques lignes à méditer maintenant pour terminer cette semaine. Comment notre Église pourrait-elle parvenir à mieux refléter l'amour et la bonté qui doivent accompagner son témoignage? Comment pourrions-nous, ensemble ou individuellement, aider notre Église locale à manifester davantage l'amour de Dieu? Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette semaine d'études. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.